n'y a pas d'autre mot. Il va être dans un désir fou de cette femme, et qui le met dans une colère noire, d'ailleurs, parce qu'il s'en veut lui-même de réagir comme ça, d'avoir ses érections, etc., quand il la voit. Mais en même temps, il ne peut pas lutter. Et au bout d'un moment, il se dit, bon, la seule façon de faire, finalement, c'est de la prendre.
Ouais. Alors, quand vous parlez de colère noire, il y a une scène plus tard dans le texte où il va voir le même désir brutal dans les yeux d'un homme, et ça va faillir se passer très mal, parce que ça lui renvoie sa propre image dégradante de lui. Effectivement, cette colère. Peut-être dire que cette colère, elle est aussi due à l'autre événement qui est au cœur du texte, c'est-à-dire que cet homme est malade, et il apprend qu'il a un cancer. Et donc, quand je parlais de Eros et Thanatos tout à l'heure, effectivement, il y a la perspective de la mort, et en même temps, cette de la mort qui va peut-être déplacer quelque chose en lui, en tout cas.
Du coup, ça le place dans une certaine urgence aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop le temps pour les
fioritures.
Voilà. Donc, il va direct au but, ça c'est sûr. Mais en même temps, il y a quelque chose en lui de... Comment dire, cette urgence le laisse un peu poreux, et du coup, il voit les choses un peu différemment. Et comme il est pressé, il y a tout d'un coup des choses de l'ordre du sentiment qui avant ne le touchaient pas, qui viennent le toucher. Il s'aperçoit que les gens autour de lui lui ont donné aussi de l'amour. C'est vrai que c'est aussi une région qui est très... ils sont très isolés du monde, et ils sont très pauvres quand même. Et ils sont tellement pauvres, et il le dit à un moment donné, ils sont tellement dans l'économie que finalement, ils peuvent plus se priver de rien, sauf des sentiments. Alors ils s'aiment, mais ils ne savent pas se le dire. Et lui, tout d'un coup, grâce à la maladie, il va tout d'un coup avoir envie de faire partager un peu ce qu'il ressent au fond de lui.
Alors, autour de lui gravitent plusieurs personnages. C'est un petit village où ça se passe. Il y a trois lieux. Il y a l'église, le bistrot et l'épicerie. Voilà, la vie sociale se résume à ces espaces-là. J'ai envie de dire plusieurs relations, duels d'ailleurs, de Thomas. Vous avez parlé d'Agustina, la vieille nourrice, qui est un personnage très fort aussi du texte. Et puis il y a Ramon, qui est son employé, mais qui est bien plus que ça.
Oui, c'est plus que ça, c'est son père spirituel, en fait. Et c'est son fidèle compagnon, c'est presque un animal domestique, je dirais, par moment. Ils vivent ensemble, ils picolent ensemble, ils sont ensemble toute la journée. Et justement, entre eux, c'était une relation un peu de travail quand même. Et tout d'un coup, lui, il va s'apercevoir de certaines choses, de l'importance de Ramon, là, et lui donner un autre statut dans sa vie. Et au début, il lutte un peu aussi là contre, mais voilà, en connaissant cette femme, tout d'un coup, il s'ouvre à d'autres champs des possibles, j'allais dire, vraiment à une certaine tendresse qu'il n'avait pas, qu'il avait en lui, mais qu'il ne laissait pas s'exprimer. Parce qu'il la comprenait pas. Donc il a des personnes. Heureusement, il s'est construit avec des personnages un peu piliers comme ça, où il a pu. Il y a une figure paternelle, il y a une figure maternelle. C'est pour ça qu'il est intelligent d'ailleurs. Hein. Mais le propos, c'est pour moi l'idée vraiment du livre, c'était comment on peut faire une belle histoire d'amour avec des gens qui feraient pas rêver du tout. Et c'est ça le propos. Je trouvais, en lisant beaucoup de romans, que dans les romans, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une fille magnifique et très riche. Lui, il est trader. Il vient la chercher en hélicoptère. Voilà. Et bon.
Oui, voilà. Oui.
Mais il y en a, généralement, quand même, dans le roman, franchement, il faut être presque. Je ne sais pas, débarrasser des contingences matérielles pour pouvoir aimer. Quoi. Il faut être beau, intelligent.
Vous devriez en parler à Camille Emmanuel, qui a fait un très chouette essai qui s'appelle « Lettre ouverte à celles qui lisent des romances », qui ferait bien d'arrêter.
Oui,
parce que Camille Emmanuel, elle a écrit de la romance pour des raisons alimentaires à une époque. Et effectivement, ce que vous dites, c'est extrêmement formaté. Le type, il est très riche. On fait du sexe, mais pas trop. Ça reste convenable, voilà. Ouais. Et voilà, effectivement, pas de problème matériel. Et la fille, bien sûr, elle va s'épanouir dans ce monde de luxe, etc. Bon, ouais. On n'est pas là du tout. Hein.
Non, on n'est pas là du tout. Mais voilà, c'était mon propos. C'est comment... ce que souvent, j'ai un espèce de raccourci, c'est comment on fait du beau avec du moche. En gros, c'est l'idée. Et c'était vraiment ça, mon propos. Voilà, une histoire d'amour qui me parle plus... moi, je suis une fille de paysan, hein, je ne suis pas sortie de la cuisse de Jupiter. Mais je me suis dit, si ça me plaît à moi, comme je suis madame tout le monde, peut-être que ça va plaire au plus grand nombre. Et pour l'instant, ouais, ça fonctionne un peu, on va dire.
Alors, on va venir, pour finir ce premier aperçu de votre texte, à Souiza, donc, qui donne son titre au roman, qui n'aurait pas pu s'appeler Thomas, il faut qu'il s'appelle Souiza, c'est sûr. Et donc, cette personne, vous en faites un portrait extrêmement fouillé. Surtout, c'est quelqu'un que le texte creuse petit à petit et on finit par comprendre qu'elle n'est, pas ce à quoi les regards des autres la réduisent. C'est-à-dire, effectivement, une fille qui rend folle beaucoup d'hommes autour d'elle. Elle est lumineuse, elle suscite le désir, mais elle est un peu conne, hein, elle est un peu simplette, et on peut se la partager, voilà, pour dire les choses comme ça. Par rapport à la violence et à la domination, il y a un tableau assez terrible, je trouve, hein, de, à un moment donné, quand, bon, on ne va pas tout dire, mais il y a un homme qui vient, c'est Alvaro, le patron du bistrot, qui vient pour racheter. On lui a pris Souiza, mais il veut de la terre en échange. Donc c'est des corps qu'on monnaie, c'est des corps qu'on achète, etc. Voilà.
Bah lui, il l'a déjà pris, il l'a acheté pour un poulpe. Hein,
quand même. Oui, c'est vrai, un poulpe.
Mais oui, mais le truc, en fait, c'est... Alors, on peut la juger complètement idiote, Souiza, effectivement, elle l'est quand même un peu. Mais en fait, c'est pas une... Elle n'est pas idiote comme ça. C'est une fille qui avait certainement, au départ, la même intelligence que tout le monde. Sauf qu'elle a eu une vie tellement difficile dans l'enfance et dans l'adolescence qu'elle s'est arrêtée à un certain stade du développement. Ça, on le voit souvent. Enfin, moi, je le vois souvent dans mes patientes qui ont été très, très abîmées par la vie. Et c'est comme si, tout d'un coup, elle s'arrêtait en se disant « Le monde des adultes, finalement, c'est trop difficile, j'en veux pas de cette vie-là. Moi, je vais rester une petite fille. » Voilà. Et leur corps, qu'on leur a pris des fois, elle le donne à tout le monde parce qu'en fait, elles s'en foutent. Il leur appartient plus. C'est celui par qui le scandale est arrivé. Du coup, alors soit elles lui font du mal, comme si c'est normalement, ou elles le font maigrir presque au bord de la mort, ou alors elles le scarifient, elles lui font du mal. Mais c'est encore une fois, je crois que c'est un moyen de lutte ou de préservation. Mmh. Et elle en est là, Souiza. C'est pour ça que dans la première scène où il la prend, on m'accuse souvent de dire que c'est une scène de viol. C'est pas une scène de viol. Pour moi, le viol, c'est il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas, et qui le dit. Mais elle ne dit rien, s'en fout. Donc il la prend. Si une fraction de seconde, elle avait dit non, je ne veux pas, Thomas, il redescend d'un étage, hein, et il s'aperçoit que oui, effectivement, il est dans
la... Et vous n'auriez pas écrit cette scène.
Et je n'aurais pas écrit cette scène.
Ouais,
non, c'est pour moi, c'est vraiment lui, il est dans le fou de désir, il a disjoncté, on va dire ça comme ça, il la veut, il la prend, et elle dit, elle l'a déjà fait pour d'autres, et pourquoi pas celui-là. Et tout d'un coup, et eux, mais et ensuite, ça va évoluer leur relation, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas une scène de viol.
Ouais, on y reviendra tout à l'heure, mais vous décrivez un parcours que fait cette jeune femme, jeune fille, jeune femme, on ne sait pas trop dire, et qui part de la Suisse. Elle s'appelle Souiza parce qu'on va l'appeler Souiza. Hein, c'est pas elle qui s'appelle. Hein, et donc elle arrive dans le pays, dans le village. On la trouve complètement. Elle a fait du stop. Elle a couché, elle a été prise par tous les camionneurs qui l'ont prise en route, etc. Et elle arrive très, très sale, très animale, j'ai envie de dire. Hein. Et le texte, c'est comment aussi elle va se transformer à l'épreuve de l'amour, on va dire, et de la tendresse. Voilà, on reviendra sur votre texte par rapport notamment aux mots. J'aimerais bien qu'on en parle, à la langue, au dictionnaire, etc. Voilà. Je vais peut-être passer la parole à Gabrielle Tulou, donc pour un texte qui, je disais tout à l'heure, est tout à fait d'une facture tout à fait différente. Sauf que c'était des enfants. C'est un texte en plusieurs parties qui reprend, en le déclinant, le titre d'ailleurs, sauf que c'était moi. Et la dernière partie, c'est Sauve, je crois, me semble-t-il. Voilà.
Sauve, ouais.
Sauve, voilà. Qui peut s'entendre de plusieurs façons. Hein, je suis sauve, sauve-toi, sauve-moi, etc. Je parlais tout à l'heure de textes qu'on dit souvent chorales, mais ce ne sont pas des voix, mais en tout cas, vous avez choisi, pris le parti de raconter cet événement. Donc, pour le dire rapidement, c'est le viol d'une jeune fille, Fatima, par un groupe de collégiens. Et on découvre l'affaire d'abord par le prisme du personnel éducatif. Voilà. Peut-être expliquer un peu ce choix comme ça de diffracter un peu la vision que peut avoir le lecteur de cet événement par plusieurs personnes, avec des points de vue, on va dire, un peu différents.
Oui, donc oui, c'est vraiment un roman polyphonique, je pense. L'idée, c'était de partir d'un événement qui est un drame. Un jour, le livre s'ouvre sur un coup de téléphone, c'est le principal d'un collège qui décroche. On lui dit qu'une jeune fille va venir reconnaître 8 gamins de l'établissement. Quand il demande les faits, on lui répond que c'est viol en réunion. Et il reste un petit peu... Sur le moment, il est sidéré, je crois qu'il ne se rend pas bien compte. Et donc, cette jeune fille va arriver. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de traiter la question, non pas du côté des enfants, mais du côté des adultes. Parce que, là, évidemment, étant moi-même enseignante, une des questions qui me tenait à cœur, c'était quand il arrive quelque chose comme ça, quelle est la responsabilité ? Y a-t-il une responsabilité ? Et quelle est-elle des adultes ? Et donc l'idée, c'était de faire entendre, sur un temps très court, qui correspond en fait au temps de l'enquête, d'où l'idée, peut-être effectivement, comme on m'a dit, qu'il y avait un petit côté policier en fait, dans la première partie, mais de faire entendre différentes voix pour questionner la responsabilité. Quelle est la responsabilité administrative d'un chef d'établissement dans ce cas-là ? Quelle est la responsabilité morale d'un parent ? Parent de victime, mais aussi parent de potentiel bourreau. Quelle est la responsabilité d'une juge qui va suivre l'affaire, etc. Donc on va parler à travers, de montrer comment cet événement, qui peut paraître distant, on est... En Seine-Saint-Denis, dans une banlieue, va en fait faire complètement exploser le quotidien de chacun des adultes dans l'établissement.
On parle souvent de communauté éducative. Hein. J'ai été enseignante aussi, donc je me souviens de ce langage. Et cette communauté-là, vous dites, elle va exploser et elle va montrer qu'à l'intérieur de ce groupe qu'on appelle un lycée ou un collège, eh bien, il y a des luttes. Il y a des points de vue tout à fait différents. J'étais frappée, par exemple, par le fait que on les appelle les CPE, maintenant c'est des pions hein, à mon époque. Voilà.
Ah non, c'est pas la même chose.
Ah, c'est pas pareil, vous, non, pardon.
Non, les surveillants sont des pions, les CPE, c'était ouais. Le surveillant général,
voilà,
c'est ça, le surgé.
Surgé, ouais, c'est ça. Ouais, il faut faire attention à ce que je dis là. Hein. Contrôle. Bref, en tout cas, ces personnes, elles revendiquent d'être près des enfants. D'être près du quartier.
Mais je ne sais pas si elle revendique, c'est un fait.
En fait moi, elles le disent, hein, mais ouais. C'est un fait. Oui.
Ça me... Ouais. Vous savez, enfin, là, pour le coup, c'est aussi un côté où on écrit, on fait de la fiction, mais on écrit évidemment à partir de ce qu'on connaît. Et je trouve que... Enfin, moi, je vois parfois de mes collègues qui passent pendant des jours et des jours sans regarder, sans dire bonjour aux surveillants. Les surveillants, ils sont dans l'établissement en permanence, ils connaissent les mômes mille fois mieux que nous. Ils connaissent toutes les histoires et dans un cas comme ça, c'est extrêmement épineux parce qu'à la fois, ils sont du côté de l'autorité dans le collège et en même temps, en dehors du collège, ils habitent les tours avec les gamins. Ils connaissent les grands frères, les cousins, les parents, etc. Donc, c'était aussi intéressant parce que c'est évidemment un statut complexe quand il se passe quelque chose comme ça et je voulais... d'une certaine manière, aussi un petit peu leur rendre, je sais pas comment dire, pas honneur, je sais pas quel est le mot, mais en tout cas qu'ils existent, qu'il y ait une lumière sur eux aussi, quoi.
Ouais. Je reviens au proviseur. Vous dites ce qu'il frappe. D'abord, il est sidéré un peu par la situation. Qu'est-ce qu'il cherche à préserver, lui ?
Je crois que le proviseur, il est, c'est un homme. Assez juste, il me semble, bienveillant. On part sur quelqu'un qui est, qui dans la vie est sensible. On se dit au départ, il a dû rentrer son violoncelle et je sais plus quoi pour ses cravates de couleur. Et on sent qu'il a rentré quand même sa sensibilité. Il cherche évidemment à préserver le bon fonctionnement de son établissement, mais pas au prix de la vérité. C'est pas du tout quelqu'un qui va chercher à masquer les choses, d'autant qu'il est père. Et qu'une de ses filles a l'âge de Fatima, la jeune fille qui a été violée. Et lui, il va donc aussi évoluer au cours de l'enquête, mais il a l'énorme qualité, je trouve. Je ne sais pas s'il affronte dès le départ, mais en tout cas, il ne met pas de filtre. Il ne masque pas. Je voulais aussi un personnage masculin qui ne soit pas négatif. Dans tout ça. Il y a beaucoup de femmes parce qu'il y a les mamans, on voit apparaître les mamans, mais je voulais que le personnage de Lunel, surtout que dans la deuxième partie, il va y avoir un personnage masculin beaucoup plus lourd, je voulais qu'il y ait un contre-pied dans la première partie avec un personnage, positif.
Alors, avant d'en venir à Emma, puisque c'est le personnage féminin qui va émerger de ce texte, peut-être, puisque je parlais tout à l'heure de domination et de violence et de préjugés, vous n'esquivez pas un point important par rapport au regard sur la victime, sur Fatima, le fait que des rumeurs, des paroles vont émerger en disant « Ouais, elle a bien cherché, quoi. » Hein, cette terrible expression sur le fait que, au fond, la victime, et ça, je suis désolée, mais c'est tellement récurrent dans notre société, le fait que fallait pas sortir à cette heure-là, fallait pas s'habiller comme ça, etc. Donc c'est vraiment un point important. Et on va voir Fatima et sa maman et sa mère et condamnées à partir, en fait. Hein. Elles se sauvent, avec les deux sens du terme, elles vont se sauver, c'est-à-dire disparaître, fuir, et puis se sauver, parce qu'il n'y a pas de salut pour elles si elles restent, en fait. J'ai trouvé ce tableau à la fois très voilà, brut et très vrai, je trouve. Hein.
Oui, il ne s'agissait pas de faire un happy end, là. Vous pouvez pas, mais ce qui est terrible, ce qui est très insidieux avec le « elle l'a bien cherché », qu'on entend dans toutes les bouches, c'est que ça s'infuse tellement loin que même la mère de Fatima ne le dit pas comme ça. Mais elle dit, si elle m'en avait... Elle a rencontré ce garçon, etc. Si elle m'avait parlé avant, et si j'avais... Et quelque part, comme si c'était évitable. À condition d'une éducation meilleure, d'avoir été plus derrière, d'un meilleur verrouillage de sa fille à l'avance. Donc, ce que je voulais montrer aussi, c'est que elle l'a bien cherché, s'infuse dans toutes les têtes. Même celles qui vont lutter ensuite contre en disant « Non, mais c'est le cas de Lunel, le proviseur, qui va avoir cette réflexion avant de se dire « Non, mais c'est pas possible. Est-ce que je m'entends penser là ?»
J'ai osé penser ça.
Voilà. Qui est une première phase, et tant mieux si on passe ensuite à la deuxième, mais qui montre bien combien c'est un discours aussi qu'on a entendu énormément et qui, je crois, est encore bien ancré.
Je crains qu'il ait de beaux jours devant lui, ce discours, hélas. Alors, vous avez inséré dans le texte des facsimilés de documents, de bulletins scolaires. Quel était le sens de ce petit aspect un petit peu documentaire ?
Il y a plein de documents, ouais. Il y a un rapport d'incident, il y a des fiches de cours, il y a des bulletins. Alors, plusieurs intérêts, pas tant finalement celui du documentaire, parce que une des choses que je craignais, c'est, étant moi-même professeure, c'est que je ne voulais pas qu'on se dise elle a réécrit une histoire qu'elle a vraiment vécue et qu'on aille chercher le nom du collège, etc. Donc je voulais pas aller dans ce sens-là. Non, en fait, en mettant par exemple deux bulletins, c'était de montrer déjà qu'on ne peut pas s'attendre, il n'y a pas un profil auquel il faut nécessairement s'attendre. Montrer aussi que quand on est enseignant face à ça, on cherche aussi à voir s'il n'y avait pas des signes qu'on aurait pu interpréter. Ce genre de choses, aller chercher dans le dossier de l'élève, c'est des choses qu'on peut faire. Quant au rapport d'incident, c'est parce que, là c'est pour montrer en fait un effet de contraste terrible, dans l'histoire, un enfant de 5e est interpellé pour viol. 5e. On se dit, c'est terrible, on le voit, en plus il est pâteau, il a son cartable de travers, enfin bon...
Et quand on vient l'interpeller, il dit « je ne vais pas voir ma maman ce soir ».
Oui, on lui demande « tu comprends, tu es en garde à vue, tu comprends ce que ça veut dire ?»« Je ne vais pas voir ma maman ce soir ». Voilà. Et pour le coup, évidemment que ce livre a été travaillé en ayant énormément de témoignages. Ça, c'est des phrases qui ont été prononcées. C'est inspiré malheureusement de faits... pour le coup réel, et ce garçon se retrouve en garde à vue, et 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, la CPE, la Surgé, traite les rapports d'incident de la semaine précédente, parce qu'elle n'a pas eu le temps, et en fait ce gamin, il avait été viré de cours parce qu'il avait volé un stylo 4 couleurs. Et voilà, et c'était pour essayer de montrer le contraste entre l'enfance qui est là. Et donc dans le titre, sauf que c'était des enfants, moi aussi, on m'a reproché, on m'a pu me dire, c'est quoi votre titre quand on s'arrête au titre? Vous êtes en train de dire qu'on les excuse parce que c'est des enfants? Non, mais ce sont des enfants et c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça n'excuse absolument pas, mais un juge ne va pas juger de la même façon un groupe d'individus ou un individu isolé, un majeur et un mineur, puisque dans la deuxième partie, cette question-là va se poser. Et donc voilà, c'est aussi une spécificité, on parle d'enfants. C'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire là-dessus, c'est que mine de rien, le viol, on en parle beaucoup, mais pas tant du viol en réunion de mineurs sur mineurs. Le sujet, il a commencé, je l'ai écrit avant, j'ai commencé avant MeToo, avant tout ça, et on n'est pas là dans le cas de savoir si on est sur de la domination de quelqu'un. Non, on est des mineurs sur des mineurs. C'est pas le même débat, en fait. Et c'est très compliqué, du coup, de le... J'ai eu très, 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 très peur à la sortie de ce livre. C'est la 8e version qui est publiée, pour vous dire.
Quand je parlais de domination, en l'occurrence, dans votre texte, j'évoquais surtout la domination du regard de la société sur la victime. Hein, c'était ça qui m'intéressait. Alors, pour finir, et je passerai ensuite la parole à Arnaud, puis je reviendrai à votre texte tout à l'heure. Il y a un personnage, Emma, qui va petit à petit apparaître dans le texte. Elle est professeure. Et vous parlez d'explosion tout à l'heure. Effectivement, ça va déclencher quelque chose chez elle de très, très fort. Et ça commence par une colère, en classe d'ailleurs. Et puis, elle va se précipiter en salle des profs. Et elle va inscrire au tableau, avec un stylo non effaçable, quelque chose de... Voilà, sa colère. Comment c'est fait le fait d'abord de faire sortir Emma de la communauté, j'ai envie de dire, de la singulariser, et puis de se dire qu'il fallait qu'elle parle dans une deuxième partie, il fallait que ce soit sa parole, pour raconter quelque chose qui est né de la confrontation avec l'événement dans le lycée et qui lui a fait prendre conscience, au fond, qu'elle aussi, sauf que c'était moi, voilà,
En fait, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs versions. Dans la première version, elle n'était pas du tout construite avec des parties distinctes. Je faisais entendre... parce que le propos du livre, en fait, il n'est pas uniquement dans la première partie. Il n'existe que dans la confrontation de ces différentes parties. Le propos du livre, c'est de dire... C'est ce que dit Emma, en fait, en départ. Donc, elle est bouleversée. Elle décide de partir marcher. Et sur les chemins de Saint-Jacques, j'ai vu qu'on avait ça en plus en commun avec Bénédicte, cette passion du chemin. Bref, Emma n'est pas moi, hein, je précise. Emma part marcher et elle se dit, ok, il se passe quelque chose en moi, je suis bouleversée par ce qui s'est passé, sauf qu'en fait, Fatima a vraiment été violée. Qui je suis, moi, pour tirer à moi la couverture d'un drame ? C'est pas grave, moi, c'est pas grave. Il y a toujours plus grave ailleurs. Et la question du livre, c'est ça, en fait. C'est pas juste la première partie, la responsabilité, c'est quelle légitimité a-t-on à dire qu'on est victime ? Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures ou pas ? Et voilà. Et j'essaye, d'une part, avant tout, de soulever la question, parce que je crois que le roman a le droit et même le devoir de soulever des questions, même quand il ne sait pas y répondre. En l'occurrence, j'espère apporter sur la fin une réponse, la mienne. Voilà,
elle s'écrit dans la dernière phrase, la réponse, me semble-t-il.
En tout cas, dans la dernière partie.
Ouais. Ouais. D'accord, on y reviendra. Okay. Alors, Arnaud Bertina, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on allait parler... surtout de l'âge de la première passe, mais peut-être aussi de faire la vie. Très rapidement, le contexte d'écriture de ce livre, ce sont plusieurs séjours que vous avez passés au Congo, où, avec l'appui à la demande d'une ONG qui s'appelle ASI, vous avez rencontré des jeunes femmes, très jeunes femmes, ça va de 13 ans à plus de 20 ans, mineures prostituées, voilà, et très souvent mères de famille, déjà. Alors, on reviendra sur le rôle de l'écrivain. Vous en parlez beaucoup dans votre texte. Je dirais que c'est un récit d'expérience et c'est une réflexion aussi sur, justement, à quoi peut servir l'écriture face à ces drames, à ces souffrances. Je commencerai... Alors, peut-être, vous avez peut-être des précisions à apporter sur ce contexte, mais ce qui ressort du texte, c'est qu'au fond, et vous le dites, alors, ce que ça a déplacé en moi, c'est comment cette expérience, ces rencontres avec ces jeunes filles, vous êtes arrivé avec ce que vous êtes, un Européen blanc et un homme, et ça a fait bouger des lignes en vous. Peut-être commencer, si vous le voulez bien, par cette question-là, ce décentrement.
Bonjour. Ce livre, ça a beau être un récit documentaire, il s'inscrit quand même, je m'en suis rendu compte au fil du temps, il s'inscrit quand même dans la suite des livres que j'avais fait avant, qui étaient pourtant des fictions. Et d'une certaine manière, c'est un peu le même type de travail où c'est le même type de regard, c'est-à-dire comment restituer la voix de quelqu'un et comment est restituer cette voix-là aussi en tenant compte de tout ce qu'elle de tout ce qui ne correspond pas à ma propre voix. C'est-à-dire comment faire une vraie place à l'autre, pas simplement le ramener à ce que je connais déjà et à ce que et à ce qui va me confirmer moi dans mes idées, etc. Mais justement aussi arriver à percuter que la personne vous dit des choses que vous ne comprenez pas ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et que c'est sa singularité et que si je gomme ça par manque de curiosité, par manque de respect, etc. Ben en fait, ce n'est plus que ma voix, c'est plus que moi qui pérore comme ça. Bon. Et en fait, comme beaucoup de gens, des fois dans la vie sociale, comme ça, mon premier réflexe, c'est de penser que j'ai raison.
C'est assez partagé. Hein.
Ouais, c'est horrible, mais c'est comme ça. Je crois que moi, une grande partie de mon élan vers l'écriture et vers la littérature, c'est justement pour essayer de me guérir de ça. Alors, c'est jamais un truc qui est définitivement acquis. C'est toujours à remettre en chantier, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours refaire un livre pour à nouveau se bagarrer avec cette illusion d'avoir raison. Mais quand même, on progresse un petit peu. Et moi, je me suis rendu compte avec ces jeunes femmes-là que j'avais un peu progressé sur ce plan-là. C'est-à-dire que je les écoutais me parler. Elles ont donc moins de 20 ans. Elles vivent dans une misère noire. Il leur est arrivé quantité de choses ultra violentes. Elles ont fait aussi des erreurs à certains moments. Je devais résister à la tentation de penser que puisque j'ai 30 ans de plus qu'elle quasiment, que puisque je viens d'un milieu nettement plus confortable, que j'écris des livres, etc., de penser que j'avais certainement quelque chose à leur apprendre de leur propre vie, en fait. Et donc, j'ai réussi, mais je pense que 5 ans plus tôt, je n'aurais pas réussi à faire ça. J'ai réussi à me taire. Quand elle me confiait des choses, j'ai réussi à ne pas avoir ce réflexe de dire « Ah, mais je vais t'expliquer ce que tu dois faire. » Donc, je peux donner un exemple très concret qui m'a beaucoup marqué.
Excusez-moi, Arnaud, vous parlez de tendre la grande oreille d'Artaud. Oui. J'ai beaucoup aimé cette expression.
Oui, voilà. C'est une expression incroyable. Ouais.
Ouais. La grande oreille.
Ouais. Ouais. Où il y a chez Nicolas Bouvier, il y a cet autre truc qui est prêter une attention, justement... polyphonique au monde, alors que le reste du temps on a tendance à n'entendre qu'une seule voix, la sienne. En fait, une jeune femme un jour m'explique, j'avais déjà beaucoup discuté avec elle, et puis elle m'explique que sa mère l'a abandonnée quand elle avait 8 ans à Pointe-Noire et qu'elle est partie vivre à 200 km de là. Et je lui demande, parce que je savais qu'il y avait en elle une très très grande tristesse permanente, je lui demande si ça lui ferait plaisir, elle aurait envie de revoir cette mère qu'il a abandonnée 7 ou 8 ans plus tôt. Et elle me répond oui, mais je ne peux pas, je n'ai pas l'argent du voyage et je n'ai pas l'argent des cadeaux avec lesquels je dois arriver devant elle. Spontanément, si je suis face à une Européenne qui me dit ça, une Occidentale, je lui dis « mais laisse tomber les cadeaux, on s'en fiche complètement, le vrai cadeau c'est que tu as envie de la revoir et elle le prendra comme ça ». Sauf qu'en fait, je ne parle pas à une Européenne, je ne parle pas à une Occidentale, c'est-à-dire je ne parle pas à quelqu'un qui a grandi dans un bain culturel où effectivement l'importance des parents aujourd'hui est très relativisée, on apprend à la mettre à distance, on apprend que les parents sont capables de nous faire violence, etc. etc. Sauf que je ne parle pas à ça, donc je parle à une jeune femme qui vit avec des dictons du genre « les parents sont nos dieux sur terre ». Donc c'est, si je lui dis, moi, avec mon réflexe à moi, laisse tomber les cadeaux pour ta mère, je suis inaudible. Et il y a pire que ça, c'est que si jamais elle m'écoutait, justement parce que j'ai l'autorité du blanc, si jamais elle m'écoutait et qu'elle se pointait devant sa mère sans cadeau, sa mère serait peut-être capable, pour cette raison-là, de la refuser à une nouvelle fois. Et donc je l'envoie vraiment au casse-pipe, quoi. C'est-à-dire, si elle se fait refuser une deuxième fois par sa mère, c'est d'une violence inouïe. Juste pour cette question d'apporter des babioles, quoi. J'étais assez fier de me taire. J'étais assez fier de me dire, cette jeune femme-là, de 17 ans, déscolarisée à l'entrée en 6e, déjà maman, dormant dehors, se faisant violer une fois sur deux, etc., j'étais très fier de me dire, c'est elle qui a l'intelligence de sa situation, c'est pas moi. Et ça, c'est pas évident, mais je pense que c'est la littérature qui m'a beaucoup, beaucoup appris à, de plus en plus, faire descendre mon degré d'autorité.
Alors, par rapport à l'ultra-violence dont vous parlez, vous découvrez aussi, enfin, le lecteur aussi, que ces jeunes filles, effectivement, dans la prostitution, n'a rien du tout de la vision pseudo-romantique qu'on peut en avoir. Hein. On n'est pas chez Griselda Real, certainement pas. C'est une violence de tous les jours, c'est sordide. Vous le dites, elles se font plutôt violer la plupart du temps. Le client, quand il paye, c'est extrêmement rare. En fait, il ne paye pas. Éventuellement, il fait venir ses copains, puis ils passent tous dessus. Voilà, c'est ça la réalité. C'est terrifiant. Mais elles ont vécu une violence antérieure qui est aussi terrible et qu'on méconnaît, en fait, je pense. C'est l'abandon, en fait. Elles ont été rejetées par leur famille. D'abord, elles sont souvent orphelines, abandon par la mort. Hein. Et puis, elles sont rejetées par la famille parce que c'est une misère terrible, en fait. Hein. Donc, cette violence-là, elle est tellement ancrée en elle et elle se perpétue aussi à travers la prostitution. Je crois que c'est vraiment... moi, je vous remercie de m'avoir éclairé sur cette dimension-là. Et puis, d'y apporter aussi une dimension politique, puisque vous vous rappelez qu'au fond, ici, si nous... Enfin, par rapport à tous les pays européens, tous les pays occidentaux, si nous vivons dans un relatif confort, une vie assez paisible, c'est parce que l'Occident continue aussi à piller les ressources de ces pays. Le Congo est un pays riche, riche en ressources, mais la population n'en voit absolument rien.
Oui, c'est complètement le cas. C'est même plus le cas à la rigueur qu'à l'époque coloniale. C'est-à-dire que le pillage aujourd'hui par l'Europe de ces pays-là est beaucoup plus efficace qu'il ne l'était à l'époque coloniale. Et donc oui, si on paye le litre d'essence 1,60€ ou 70€, c'est parce que le fait que le litre d'essence soit aussi peu cher, c'est au prix de cette misère faramineuse dans des pays comme le Congo. Total et Eni, une compagnie italienne, exploitent tout le pétrole congolais et la population n'en voit pas la couleur de cet argent-là. Et ça ne débouche même pas sur des emplois, puisque c'est des Européens qui exploitent les plateformes. Bref, donc oui, ces jeunes filles-là, en fait, j'ai été très surpris, je ne m'y attendais pas, je m'attendais à ce qu'elles me parlent toutes de ce qu'elles vivaient la nuit, alors qu'en fait, non, la seule chose qu'elles ont à raconter, parce qu'à la rigueur, ce qu'elles vivent la nuit, ça y est, elles y sont déjà habituées, la seule chose qu'elles ont à raconter, c'est la première grande douleur de leur vie, c'est d'avoir été, alors effectivement, soit de s'être retrouvée orpheline, parce que dans ces marges-là de la population, l'espérance de vie est très basse, soit d'avoir été abandonnée pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ou 6 enfants, on est obligé de se débarrasser des aînés, même s'ils sont tout jeunes, et on le fait d'une manière qui est sale, c'est-à-dire par exemple en décidant que l'aîné, la fille aînée ou le garçon, voilà, tout d'un coup on va inventer une rumeur comme quoi il serait sorcier. Alors ça, c'est l'excuse pour virer l'enfant et que tout le quartier effectivement valide la chose. Et sinon, il y a aussi tous les cas d'inceste, il y a aussi tous les cas de parents qui prostituent eux-mêmes leurs enfants, et donc les enfants finissent par se détacher de leurs parents quand même aussi à un moment. Et tout ça s'explique par la misère, hein, c'est-à-dire que dans d'autres parties de la population, il n'y a pas cette violence aussi extrême. Mais effectivement, pour les filles, c'est le truc dont elles ne se relèveront pas, quoi. C'est cette violence-là qui a été... qui s'origine dans la vie de la famille. Je m'attendais pas à ça. Alors qu'en fait, quand vous êtes face à des mineurs prostitués, c'est évident, il faut imaginer ça en amont, quoi.
Alors, deux petites questions pour finir, avant de repasser la parole à Gabrielle et à Bénédicte. La première, c'est... Je commencerai par la photographie. Vous avez décidé... parce que vous adorez la photographie, vous êtes un photographe amateur depuis très longtemps, de compléter ce texte par un livre d'images, de photographies que vous avez prises vous-même. Et vous dites des choses étonnantes, je trouve, sur la prose et la photographie, en disant que la prose, pourtant vous êtes un grand prosateur, la prose, au fond, elle l'entre trop dans les... Elle est trop explicative, elle entre trop dans les liens de causalité, elle est trop bavarde, elle s'attarde trop, alors que la photographie a une autre vertu, d'autres vertus. Et par rapport à l'avenir, parce que ces filles, finalement, s'imaginent un avenir, hein, se rêvent un avenir. Vous dites, la photographie ne fiche pas seulement ce qui a été, elle ouvre aussi l'espace des possibles. Elle montre un avenir. C'est très étonnant, parce qu'effectivement, on a tendance à voir la photographie comme un arrêt qui bloque. Vous dites qu'elle ouvre.
Peut-être qu'elle ouvre dans ce cas précis. C'est-à-dire, en fait, avec des filles qui ont déjà un passé extrêmement douloureux et qu'elles traînent comme un boulet. C'est-à-dire que la plupart rêvent d'une autre vie, mais par exemple, la plupart sont convaincues qu'il n'y a pas de dehors à cette vie-là. Par exemple, j'ai été très, très ému quand certaines de ces filles-là me disaient que le soir, dans les boîtes et les bars, elles faisaient attention pour voir quel était le client ou le garçon qui serait moins violent que les autres et qui pourrait donc devenir un mari. Et je me disais, mais ça, c'est fou. Ça veut dire qu'elles n'imaginent pas qu'il y a quelque chose d'autre qu'un rapport de client à prostituée. Alors que n'importe quelle personne ici, plongée dans un contexte comme ça, penserait tout de suite à un dehors de la chose. En fait, là, elles sont en enfer. Il n'y a pas de sortie de cet enfer-là. C'est-à-dire, il y a juste la possibilité d'accommoder un peu cet enfer-là avec quelqu'un qui serait moins violent que les autres. La photo, en fait, à ce moment-là, les prendre en photo, ces filles-là, surtout dans les moments où elles posaient pour moi volontairement, c'est-à-dire c'était elles qui me demandaient de les prendre en photo, à ce moment-là, effectivement, ce que je photographie, c'est leur présent. Et ça, alors que la phrase du récit, elle, va agréger quantité de choses. Et ces quantités de choses, c'est des morceaux de leur présent, mais aussi des explications de leur passé, etc. Donc à ce moment-là, je les montre encombrées par toute leur vie, écrasées par ce qu'elles vivent. Dans la photo, au contraire, je les photographie à un moment donné. Et donc, effectivement, tout est ouvert. Elles sont à ce moment-là débarrassées peut-être de leur passé. Leur passé n'est pas immédiatement visible sur la photo. Évidemment, si on en fait une lecture prolongée de cette image, on va pouvoir trouver des traces de ça. On va trouver des traces de leur passé. On va voir des tatouages sur le corps de l'une. On va voir une tristesse ou une mélancolie dans l'œil de l'une. Et donc, on va pouvoir faire des hypothèses. On va pouvoir se dire, tiens, cette fille-là, son regard n'est pas si joyeux que ça. Mais pour la plupart, quand même, c'était un moment où elles se voyaient belles et où on ne leur renvoyait pas leur passé. Donc je me dis, oui, à ce moment-là, les choses sont ouvertes. Plus ouvertes peut-être que dans un texte littéraire.
Dernière question, à quoi sert un écrivain dans cette situation-là? Vous la posez vous-même.
Oui. Alors c'est très compliqué. Je pense, vis-à-vis des filles, je pense à pas grand-chose. Et en même temps, ce pas grand-chose, il faut essayer de le détailler un petit peu. Au départ, j'étais très sceptique. Au fil des voyages, j'étais de plus en plus sceptique. Et puis un jour, il s'est passé cette petite chose. Donc, c'est des jeunes femmes déscolarisées très tôt. Hein, donc, encore une fois, donc, qui sont pas habituées aux livres, qui sont pas habituées à écrire et qui sont encore moins habituées à se confier et à parler d'elles. Donc, les moments d'écriture étaient des moments... C'était la planète Mars pour elles. C'est-à-dire, elles ne comprenaient pas pourquoi je leur demandais ça. Elles ne voyaient pas l'utilité de la chose, etc. Et un jour, j'étais dans une salle de réunion avec une des formatrices et une de ces jeunes femmes vient me trouver. Elle me dit « Est-ce que je peux reprendre mon texte? Je voudrais le retravailler. » En fait, en vrai, elle ne le retravaillait pas vraiment. Je voyais bien qu'elle le recopiait. Enfin, elle ne changeait pas grand-chose, etc. Mais ça a duré plus d'une heure. Et une fois qu'elle est repartie, la formatrice m'a dit « Tu vois, ça, si ça leur servait à rien, jamais elle serait venue te retrouver en passant une heure, ce qui pour elle, en termes de concentration, est hyper long. » puisqu'elles ne vont pas à l'école, si ça ne lui apportait pas quelque chose. Donc ça lui apporte un endroit, ça lui apporte quelque chose. Mais quand même, c'est vrai que ça m'apporte beaucoup... c'est bête à dire, je pense que ça m'a apporté 100 fois plus qu'à elle. Ensuite, il y a un autre endroit, c'est la bienveillance. Et je pense que ça, quand même aussi... Alors c'est très difficile à quantifier, mais je pense, au fil des voyages, avoir réussi à les convaincre de ma bienveillance. Elles voyaient que mon regard était un regard bienveillant.
Amical.
Alors, amical, c'est un grand mot.
C'est un grand mot.
C'est compliqué parce qu'il y a trop de différences entre nous pour qu'elles se disent ou que moi, je me dise amie de ces filles. Mais de la bienveillance. Et c'est pour ça que, au cours du dernier séjour, elles ont toutes voulu que je les prenne en photo, cette fois-ci de manière posée, alors qu'elles me voyaient le reste du temps les prendre en photo. Je pense que c'est parce que ça y est, elles me signifiaient qu'elles avaient confiance dans mon regard. Et je pense que cette bienveillance-là, c'est déjà beaucoup, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, se dire, tiens, le blanc, non seulement il passe ses journées avec nous, il déjeune notre repas avec nous par terre dans la cour, mais en plus, il nous écoute tout le temps. Ça fait 6 mois, ça fait 3 ans qu'il nous écoute. Et en plus, il nous prend en photo et il y a une complicité, il y a une forme d'affection, etc. Et là, je pense que voilà, c'est un peu comme une caresse, quoi. C'est-à-dire, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire, tiens, c'est bizarre, je comprends pas pourquoi, mais ils me respectent. Elles sont respectées par leurs formateurs, hein, et c'est des gens fantastiques. Elles sont ultra respectées par les infirmières qui vont les trouver dans les bordels. Mais là, moi, je suis un blanc, c'est encore autre chose. C'est un ovni, c'est bizarre, un blanc, qu'est-ce que ça fout là et tout. Et donc, de finir par être convaincu par cette bienveillance-là, ça fait un peu de bien. Après, malheureusement, concrètement, dans au quotidien de leur... Enfin, je ne change rien à leur quotidien. Ça, je suis d'une impuissance colossale par rapport
bien
à ça.
Bien sûr, d'accord. Gabriel Tulou, dans votre thèse, dans la première partie, il y a un personnage, je crois que c'est le CPE, me semble-t-il, qui dit « Je ne serais pas venu éducateur si je n'avais pas le désir de réécrire la fin ». Et j'ai trouvé cette expression tout à fait... Arnaud parlait de bienveillance, tout à fait intéressante. Et j'ai envie de transférer cette question à la littérature. Est-ce que la littérature, c'est réécrire la fin? Je suis désolée, c'est l'heure de l'apéro, là, mais...
Non, mais surtout que je suis complètement inspirée par...
Oui.
C'est super compliqué comme question. Avec ce texte-là, en tout cas, je ne crois pas que j'étais là-dedans. Je crois que j'étais vraiment dans l'idée, la littérature ouvre, pose une question, pose des questions. Ouais. Réécrire la fin, en l'occurrence, réécrire la fin, c'est le moment où on est capable de mettre un point final. Moi, ouais. je n'ai pas été foutue de mettre ouais. un point final ouais. à ce texte et à cette question. Et voilà. Alors,
oui, effectivement, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de...
Bon, mais de toute façon, c'était déjà le cas pour le premier. Moi, je déteste raconter au lecteur ce qu'il doit penser. Je déteste les sous-titres. Je déteste. Enfin, voilà, je peux me reconnaître un petit peu dans ce que vous disiez tout à l'heure d'une forme de pudeur aussi et de laisser, de pas être trop dans l'explicatif. Et donc, voilà, pour moi, si réécrire la fin, c'est imposer une fin, non. Non. Le premier, c'était une fin ouverte. Là, d'une certaine manière, c'est encore une fin ouverte. Je me fais parfois engueuler par les lecteurs qui n'aiment pas les fins ouvertes. Je ne peux pas imaginer... c'est aussi ma façon de respecter la lecture de l'autre, surtout dans un sujet comme ça, que de ne pas mettre de point final. Donc, je fais une pirouette pour répondre à cette question difficile. Mais réécrire, c'est déjà pas mal. La fin, je ne sais pas.
Alors Bénédicte, on va revenir auprès de Suiza. Je vais essayer de poser des questions moins complexes.
Oui, parce que moi, je suis pas une littéraire. Hein. Ils sont trop.
Comment ça, vous n'êtes pas une littéraire ?
Non, je suis.
Allons
non.
Dès qu'on écrit un livre, on est littéraire. Oui. C'est la question des mots. On l'a commencé à l'aborder tout à l'heure quand vous expliquiez à quel point votre personnage Thomas, il n'est pas le seul d'ailleurs. Hein, finalement. Non pas choisi, mais a été emporté vers le geste, la brutalité, le corps aussi. Il faudra parler des corps aussi, que vous traitez magnifiquement. Et sont privés des mots, en fait. Et un des mouvements du texte va consister à faire que ces personnages retrouvent le chemin du langage. Et le chemin du langage des émotions. Mmh. Ça, c'est un point important, je crois, de votre texte.
J'ai eu plus... Posiez la question sur la fin, moi, par contre, hein, parce que oui, bien sûr, ils vont apprendre à parler, et surtout, ils vont apprendre à parler de leurs émotions, parce que c'est voilà. Moi, je viens du milieu paysan, et c'est vrai que dans le milieu paysan, par exemple, c'est vraiment un milieu où on parle pas. Vous sentez les choses, mais je crois que j'ai jamais entendu mes grands-parents ou mes parents dire je t'aime. Je sentais qu'il y avait quelque chose, hein, mais dans ces milieux un peu voilà, ruraux, je le dirais comme ça, ça tombe sous le sens, et puis surtout, on n'a pas les mots pour l'exprimer. Donc, on fait un peu avec. On parle en acte, en fait. Et d'ailleurs, ils sont, eux, très, très là-dedans. Hein, ouais. Ils parlent en acte. C'est que de l'acte brut. Mais tout d'un coup, ils vont justement apprendre un peu à faire des choses un petit peu différemment. Et puis surtout, ils ont une activité qui est toujours essentielle. C'est-à-dire, voilà, elle va. Par exemple, dans cette féminité, elle va lui apprendre à faire des choses qui n'ont pas forcément du sens, à ranger, par exemple. Parce que c'est un bazar extraordinaire autour de l'affaire. Et tout d'un coup, elle va lui dire, ben oui, si c'était propre un peu, ou si on faisait un petit jardin là, voilà. Des choses qui sont... Elle va lui apprendre le futile. Parce que c'est des choses qu'ils ne connaissent pas, le futile. Chez moi, dans mon milieu, le futile, on ne connaît pas. Il faut que ce soit sonnant et trébuchant. Un sou, c'est un sou. Et on est très avare de ça et des choses. Ça me faisait un peu penser à Giono dans Que ma joie demeure, hein, où ouais. il apprend.
Après, seul dit qu'elle n'est pas littéraire.
Mettre des graines. Ah non, mais Giono, c'est autre chose. Giono, c'est Giono. Quoi.
Giono. Enfin,
voilà, Giono. C'est pas. Oui, Giono, c'est mon Dieu, moi, par contre. C'est pas mes parents, c'est mon Dieu. Et voilà, donc oui, c'est apprendre le futile et l'agréable, et ça, c'est... Et tout d'un coup, perdre du temps, quoi. Il le dit d'ailleurs à un moment donné, il s'aperçoit qu'en fait, lui qui a toujours été, même mourant, il est en train de se demander si ses chants vont... Qui va les faucher. Et pourtant, tout d'un coup, il se rend compte que, en fait, non seulement il ne pourra plus jamais vivre sans elle, et que, c'est pas tellement qu'elle soit là, mais c'est qu'il ne pourra plus jamais vivre sans cette futilité dans toute cette féminité qu'elle lui amène. Et ça, c'est vrai que du milieu où je viens, c'est difficile.
il affirme à plusieurs reprises par rapport à ce discours et ces regards qu'on porte sur elle, c'est ma femme. Et c'est pas une appropriation là. C'est montrer, c'est lui donner une place. Respectable, etc.
C'est toute la différence. En fait, c'est le. Alors pour le coup, c'est le joug qui vous libère. C'est-à-dire quand elle est tellement naïve que évidemment tous ceux qui la veulent la prennent. Et tout d'un coup de lui, c'est d'ailleurs le curé qui vient lui dire épouse-la. Si tu l'épouses, tu lui donnes un nom, tu lui donnes ton nom. Et du coup, elle sera plus cette espèce d'animal errant. Et paradoxalement, en lui mettant des chaînes, tu les lui enlèveras. Et ça, je trouve que c'est assez vrai. Je le vois beaucoup chez des fois des filles qui sont très. Voilà, c'est un peu ça. C'est le fait de trouver un mari.
Trouver un lien qui libère, voilà. En fait.
Et puis surtout, parfois, au lieu de. Moi, je me souviens, j'ai travaillé un peu en Suisse au début de ma carrière. Et il y avait des gens, enfin, des agriculteurs très, très perdus dans la nature. Ils achetaient des femmes, ils disaient ça comme ça. Il y avait un journal et c'était des Guadeloupéennes qui venaient. Et j'avais mis au monde l'enfant d'une femme qui était venue comme ça. Elle avait connu son mari sur une photo, voilà. Et il avait payé le billet d'aller. Alors il payait le billet d'aller, mais pas celui de retour. Hein, donc du coup, tu es obligé de rester, la brave. Mais je lui avais dit, mais comment tu fais ? Enfin, comment c'est possible ça ? Comment ? Elle m'avait dit, mais tu sais, c'est pas grave parce que chez moi, de toute façon, c'est 15 par jour. Alors un par pour la vie, ça me va. Moi, je suis bien. Hein. Et puis en plus, il est gentil avec moi, il tape pas. Donc c'est des trucs comme ça qui sont finalement une chaîne en enlève des autres. Et c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et des fois, il n'y a pas d'autre avenir que ça. Et ce qui explique la fin, parce que voilà, c'est juste pas possible de vivre sans lui, quoi.
Ouais. Alors au début, le personnage de Thomas, il accepte assez bien qu'elle ne parle pas, en fait. Hein, c'est pas très important. Ça aussi, c'est une des prises de conscience. C'est que, donc, elle ne parle pas l'espagnol. C'est qu'il va falloir trouver les mots, en fait. Et donc, il lui achète un dictionnaire. Hein.
Oui, parce qu'il commence à se rendre compte, comme ça, que, bon, oui, c'est bien. Mais elle peut dire café, bonjour, etc. Mais en gros, et d'ailleurs, c'est Agustina qui se moque de lui en lui disant, ouais. Ah, ça ne suffit plus que de faire l'amour avec elle. Il faut qu'elle te parle, en plus. Et puis lui, il a envie de lui dire des choses, il a envie de comprendre des choses d'elle, et ça suffit plus effectivement ce côté charnel. Il le dit, j'ai envie qu'elle parle, j'ai envie de la comprendre, j'ai envie d'être fière d'elle. Et du coup, il va essayer de lui apprendre. Et elle est idiote, mais elle a une bonne mémoire, donc elle ça marche bien, elle apprend.
Il y a un petit truc contre les Suisses parce que quelqu'un lui dit, mais pourquoi pas un dictionnaire? Suisse espagnol, oui, mais ils parlent français. Alors c'est quoi ces Suisses ? Avec leur banque et tout, mais ils ont même pas une langue à eux, quoi.
Qui vont piquer celle des autres.
Pardon ? Ou ils en ont trois.
Alors, ouais. Non, en fait, ils en ont, parce que je suis une nationalité suisse aussi. C'est pour ça que je me moque un peu de mes compatriotes, mais ils ont.
C'est l'autodérision. En
fait, voilà. Mais c'est parce qu'ils en sont assez fiers quand même. Non, ils ont quand même une langue à eux, qu'elle romanche, mais il est très peu parlé, en fait. Très bien. Donc c'est vrai qu'ils ont, ils sont quand même, enfin, pour les pays qui sont un peu limitrophes, ils sont un peu donneurs de leçons, et du coup, mais qu'est-ce que c'est que c'est, particulièrement pour les Espagnols, surtout quand moi je dis que je suis suisse là-bas, ils ont toujours l'impression que je suis l'héritière des banques suisses, donc je suis pleine de pognon, donc voilà, et du coup, voilà, c'est un peu un pays donneur de leçons qui a beaucoup d'argent, qui réussit et tout, et c'était une dame qui m'avait dit ça, mais ils ont pas de langue à eux, qui sont allés piquer celle des autres, les Italiens, les Allemands, le Français, j'ai dit, non, si. Voilà, c'était un événement, quelque chose d'un peu vrai qui s'était passé, dialogue.
Alors, avant de peut-être passer la parole au public, je reviens un petit peu vers vous, Arnaud, sur les paradoxes en fait que vous soulevez dans votre texte. Tout à l'heure, voilà, ces filles, elles croient encore à l'amour, elles cherchent un mari, un love. Hein, voilà, c'est l'expression faire la vie. J'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus, puisque le recueil de photographies a repris cette expression. Qui vient des filles elles-mêmes. Le soir, elles vont faire la vie.
Oui, quand j'ai entendu ça la première fois là au Congo, je n'avais jamais entendu l'expression. Et depuis, il y a quelques personnes de temps en temps qui me disent qu'elle existe aussi en français, mais je ne l'ai vraiment jamais entendue. Et surtout, elle n'a pas le sens qu'elle a au Congo, qui est vraiment donc, une sorte d'euphémisme pour parler de la prostitution. Mais justement, c'est un euphémisme assez sidérant. Quoi. Dans faire la vie, il y a quand même l'idée un peu justement de faire, c'est-à-dire d'être acteur, alors que dans la prostitution, il y a, en tout cas dans cette prostitution-là, il y a une passivité terrible, quoi. C'est-à-dire je subis. Donc déjà il y a cette contradiction là, et puis d'en faire la vie, il y a aussi comme justement il y a l'idée d'être acteur, et puis qu'il y a ce mot vie qui normalement est toujours connoté un peu de manière positive. L'expression est un peu trop heureuse pour désigner cette prostitution là qui est une prostitution terrible. Donc ça, oui, ça m'a beaucoup marqué quand je l'ai entendu. Après, ce qui est amusant, c'est d'essayer de faire, pareil, de prendre au sérieux ces expressions-là, c'est-à-dire de pas tout de suite leur faire la leçon comme je viens de le faire là maintenant, c'est-à-dire en disant « mais t'es une expression trompeuse, toi ». C'est au contraire d'essayer d'entendre quand même ce qu'il y a là-dedans. Pourquoi ? Parce que, en fait, les filles, quand elles vont, même ces filles-là, donc qui ont déjà vécu vraiment et qui vivent l'enfer, en fait, elles sont le soir à 17h, à 18h, elles sont excitées à l'idée d'aller en boîte et d'aller dans les bars. Donc ça s'entend d'en faire la vie, cette excitation-là, quoi. C'est-à-dire, bah oui, on va quand même danser, on va boire, on va être avec les garçons, etc. Donc elles sont à un moment très schizophrène de leur parcours, quoi. C'est-à-dire que ce sont encore des adolescentes heureuses de sortir, alors qu'elles savent très bien, elles ne s'illusionnent pas du tout sur la dureté de ce qu'elles vont subir. Et d'en faire la vie, il y a ça. Alors, ce n'est pas comme, par exemple, en Martinique, où se prostituer se dit « faire boutique mon cul ». Là, clairement, il y a quelque chose d'heureux, quoi. Il y a quelque chose de joueur et de malicieux, quoi. Donc, d'en faire la vie, c'est moins fort, le curseur est plus bas, mais il y a un tout petit peu ça aussi, et je me dis, bah tiens... Au lieu de faire la leçon à l'expression ou à ses filles, eh ben non, je dois entendre ça, c'est-à-dire que tiens, il y a un soupçon d'amusement, il y a un soupçon de position d'acteur, eh ben je dois l'entendre et je dois le rappeler. Et donc dans le livre, ça m'a amené à garder ces moments de joie, de fête auxquels j'ai pu assister, ces moments de blagues, ces moments où il y avait une atmosphère très électrique dans la cour parce qu'elle se faisait belle pour sortir. C'est pas pour atténuer ce qu'elles vivent, c'est au contraire pour ne pas les enfermer dans le statut de victime. C'est pour bien rappeler que même une victime, même quelqu'un qui vit dans des conditions atroces, il y a normalement encore des moments où il y a de la vie, il y a de l'humour, il y a de la liberté qui s'exprime. Le livre se termine sur ça, c'est-à-dire en fait le mystère c'est la lumière, c'est comment ça se fait que toutes ces filles ne sont pas déjà folles. Elles devraient toutes être folles. Ce qu'elles ont vécu est trop minant. Or, je suis obligé de constater qu'elles ne le sont pas du tout. Et donc, si je ne relève pas ces scènes de fête ou d'amusement, le livre est incompréhensible. Parce que tout le monde me dirait, mais ensuite, tu les décris pas folles. Ah bah oui, mais elles le sont pas. Bon, mais comment elles le sont pas ? Voilà. Donc en fait, pour coller au plus près de ce qu'elles sont et de cette vie qui est encore là, qui est encore à sauver... Je devais ne pas masquer ces expressions-là, je devais ne pas masquer les moments de fête, etc.
Par rapport à votre position, votre positionnement, préciser que vous ne les avez jamais accompagnées dans les lieux de prostitution. Mais à certains endroits, vous n'êtes pas allé.
Alors, je ne suis pas allé chez elles, dans les quartiers où elles vivent. Par contre, je suis allé dans les... Au contraire, j'étais tout le temps en maraude la nuit.
Là où elles vivent.
Voilà. Mais par contre, ce que je faisais, c'était... Je n'ai quasiment pas du tout fait de photos dans ces lieux-là, par contre. D'abord parce que c'était trop dangereux. Je risquais de mettre en danger le travail des infirmières, si on me voyait faire. Et puis ensuite, justement, pour qu'elles ne me voient pas, elles, faire ça. C'est-à-dire qu'elles ne me voient pas enregistrer des preuves qu'elles ont été prostituées. Parce que là, le but, c'est de les aider à devenir autonomes financièrement, à ne plus avoir besoin de la prostitution. Et s'il reste trop de traces de ça, je participe à quelque chose de dégueulasse dans ce cas-là. C'est-à-dire, j'ai beau vouloir parler de leur situation, en fait, ce que je fais, c'est beaucoup plus leur faire violence à ce moment-là. Donc, quand j'étais en maraude le soir, je prenais pas de photos.
Alors, petite projection, ce livre, vous dites, vous y tenez beaucoup, il est très important pour vous. On peut imaginer qu'il va... changer, encore une fois, votre rapport à la fiction qui va laisser des traces ?
Ah, ça, je sais. Il laisse des traces, mais dans mon parcours d'écriture, c'est-à-dire j'ai appris des nouvelles choses en l'écrivant, mais par contre, je ne sais pas s'il va changer beaucoup mon rapport à la fiction. En fait, plutôt ce qui s'est passé, c'est que je pensais jusque-là que la différence entre la fiction et le documentaire était assez nette. Et je me rends compte qu'en fait, l'éthique d'écriture est la même dans un cas comme dans l'autre. Et donc, en fait, ça a plutôt flouté la distinction entre les deux trucs. Et en fait, je ne vois plus bien exactement la différence. Entre un documentaire, par exemple, quand je donne la parole à des ouvriers ou à ces jeunes filles-là, elles me racontent leur histoire. Je n'ai pas la possibilité de vérifier ce qu'elles me disent. Obligatoirement, dans toute histoire qu'on se raconte, il y a toujours une part, là aussi, d'interprétation de fiction. On invente, on bricole les choses. Il y a de la fiction partout, en fait. Je ne suis pas certain que le fait qu'il s'agisse d'une enquête que je peux prouver à base de photos, je ne suis pas certain que ça empêche le livre d'être plein de ces fictions-là, quoi. Donc, pour moi, la zone est devenue très grise entre les deux, là où je voyais avant.
Du noir et du blanc. Les photos sont en couleur. Elles sont très belles. Ouais. Alors, Gabriel Tulou, on a compris votre éthique d'écriture. Enfin, je pense qu'on l'a comprise. Moi, je me suis posé la question, vous êtes prof, hein, vous avez des enseignants autour de vous, vous avez des lecteurs, des lectrices parmi vos collègues. Comment le livre a été reçu? Ça m'intéresse.
Alors, finalement, j'ai assez peu de mes collègues qui me lisent parce que je dis pas en salle des profs ce que je fais. Après, il y en a qui... En revanche, il y a quelques années, on a eu, sans que ça soit la même histoire, toute une série d'événements de cet ordre-là. Et il reste, vous savez, dans le 93, les enseignants restent pas longtemps. Il ne restait que très peu d'enseignants qui auraient pu voir des liens. Et ceux-là, je les ai tous prévenus du projet. Certains m'ont lu et ont été hyper bienveillants. Vraiment, m'ont remercié pour certains. Et d'autres, pas encore. Mais en fait, je ne suis pas trop du genre à tanner les gens de me lire. Donc, surtout sur un texte comme ça, c'est un texte qui, mine de rien, était assez lourd à écrire et qui est lourd à porter depuis, pendant le confinement. Il est sorti en janvier. Pendant le confinement, il y a eu quelques opportunités d'en parler. Et en fait, je les ai refusées en disant on est déjà confiné, je ne vais pas rajouter. C'est de la radio, des petites radios, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un livre, je suis contente de l'avoir fait. Il y a une forme de fierté d'être allée au bout. Mais j'ai envie de passer à la suite aussi.
Très bien. Alors, Bénédicte, vous m'aviez prévenu, faites-moi taire parce que je suis très bavarde. Mais finalement, ça s'est bien passé, moi, je trouve. Et je vous ai dit surtout, ne me faites pas parler d'Espagne parce que ça va être terrible, quoi. Alors, je voudrais quand même qu'on en parle un petit peu. Et puisque vous parliez de Giono, c'est le torrent, hein, c'est la houle. Et je trouve qu'il y a un peu de la houle dans votre texte. Je trouve que c'est un texte très, très emporté. Vous décrivez, alors j'ai vu des interviews de vous, vous dites finalement, mais parler de sexe dans la littérature, c'est très souvent, c'est terrible, quoi. C'est bête, c'est vulgaire.
C'est une histoire de vocabulaire.
De vocabulaire, tout à fait.
C'est-à-dire que,
comment écrire?
C'est parce que, en fait, on est très ennuyé avec les scènes d'amour, parce que soit vous faites. Enfin, moi, de ma profession, je suis sage-femme, quand même. Donc, du coup, si d'emblée, comme ça, j'écrivais, je ferais quelque chose d'un peu médical. Mais les termes médicaux sont absolument impossibles en littérature. C'est toujours des mots avec des V, des G, vagin, verge, enfin, c'est des trucs affreux. Rien que d'en parler, j'ai des froids dans le dos. Et du coup, alors, si on veut parler... Ouais, alors, des fois, on bêtifie un peu. Hein, on les transforme même dans la vie courante. Hein, j'ai des petites jeunes qui viennent me voir en me disant « J'ai un truc là, en bas, à la foufoune. » Enfin bon. Donc, on en fait quelque chose d'un peu mignonné, parce que c'est hard. Et du coup, c'était ça, la difficulté de la scène d'amour. C'est comment ne pas blesser, comment ne pas choquer, et comment ne pas être non plus cuculapraline. Ça, c'est super dur. Et c'est pour ça qu'au début... J'ai commencé à écrire, et quand on écrit des scènes d'amour, vous savez, on pense toujours à sa grand-mère. C'est...
Ah bah bon.
Oui. Enfin, je sais pas. Alors, à sa famille.
On va relancer un débat. Là.
Non, on pense à sa famille. On se dit qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ou même mes lecteurs, qu'est-ce qu'ils vont penser que c'est ma sexualité. Voilà. Non, je sais pas pourquoi je pensais à ma grand-mère, parce que c'était quelqu'un qui était quand même très. Enfin, je me disais, si elle lit mon bouquin, elle va se retourner la pauvre dans sa tombe. Enfin, bref, j'avais un petit côté comme ça. Je me suis dit, oh là là, puis mes enfants, tout ça. Et d'ailleurs, ma fille, quand elle l'a lu, une de mes filles m'a dit, mais non, maman, mais t'écris pas des trucs comme ça, tu fais des clafoutis.
Et du coup, j'ai dit... Bah,
la
oui,
réception
mais...
pour la famille, c'était...
Voilà. Et elles étaient un peu... C'est ça. Donc, oui, c'est pour la deuxième, c'était un peu compliqué. Mais voilà. Et puis, oui, c'est vraiment difficile de parler d'amour en termes de... Voilà, de déjà, de vocabulaire. Après, d'émotion. Je pense qu'on... Excusez-moi, on ne jouit pas tous pareil. Et du coup c'est, voilà, c'est... Puis qu'est-ce qui est de moi, de ma propre, mon propre vécu et tout. Et alors, je me suis dit au début, je vais écrire sous un pseudo, comme ça, tranquille. Voilà. Donc là, ça m'a déjà bien libérée. Après, j'ai pris un verre de vin. Parce que ça aussi, ça fait un peu tomber les tabous, quand même.
Vous avez dit deux, d'abord. Hein.
Oui, j'ai dit deux, parce que je lui racontais tout à l'heure que quand monsieur de Manet, des éditions Gallimard, m'a vu, m'a dit, madame Dubois, vos scènes d'amour. Comment faites-vous? Je lui dis, je bois, monsieur. Je bois un verre de vin. Il m'a dit, buvez-en deux. Donc, c'est pour ça. Je bois, effectivement. Et du coup, il m'a dit, buvez-en deux. Et je crois que j'ai besoin de ça quand même, oui. Le problème, c'est qu'on s'habitue vite. Et je ne voudrais pas finir comme Bukowski, quand même. Les émotions sont difficiles à donner. Ma perception des choses est différente. Et voilà, comment le lecteur, je vais faire attention de ne pas le choquer, puis en même temps, de ne pas faire bisounours ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est difficile.
Gabrielle voulait réagir.
Oui, juste à quelque chose que tu viens de dire sur le fait de dire, il y en a qui disent oui, bah là j'ai un problème en bas. En fait, moi je me suis aperçue dans le collège justement de l'inverse, c'est-à-dire que quand on dit ça, mine de rien, il y a une forme de pudeur. Et on a la conscience qu'on va dire un mot si on dit sexe, qui pourrait poser problème. Dans un moment où justement on n'arrête pas de demander comment, il y a plein d'émissions sur qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants, comment... Bon. Moi, mes élèves, hors cours, quand il m'est arrivé de devoir faire face à des révélations, des confessions d'élèves, en fait, je me suis rendu compte qu'ils employaient des mots hyper crus, sans se rendre compte que c'était cru. Ouais, en fait, il m'a touché la chatte et t'es devant ta prof de français et t'es en train de dire ces mots-là, mais parce qu'en fait, t'en as pas d'autres. Pourquoi t'en as pas d'autres? Parce que ton rapport au sexe est cru. Et donc quand on parlait là des mots et du finalement là sur ces questions du sexe, on est vraiment sur le mot qu'on pose dans le rapport amoureux, mais aussi dans le rapport de soumission. Enfin, il est extrêmement révélateur en fait.
Après, quand moi je fais des informations contraception dans les collèges, quand j'arrive en classe de troisième et que je demande comment s'appelle un sexe de fille. Dans 80% des cas, on me répond vagin. Je dis non, ça c'est l'intérieur. Comment s'appelle l'extérieur? Il y a, allez. Jamais on me répond, c'est une vulve. Jamais. La chatte, machin, tout ce que vous voulez. Et même des fois, ils comprennent pas la question. Et je dis, bah, vous savez, le truc là qu'on appelle la chatte, quoi. Alors là, ils font, alors ils rigolent. Mais personne ne sait exactement comment ça s'appelle. Et ils ont, moi, je trouve une vision. C'était très curieux parce qu'à côté de ça, ils ont vu X films porno. Et du coup, ils ont. Moi, je me dis souvent, nos générations, nous, on avait la machine, mais on n'avait pas le mode d'emploi. Eux, ils ont le mode d'emploi, et un mode d'emploi qui est faux, et ils ne savent même pas comment marche la machine. Quoi. Et le mode d'emploi, il est faux. Donc, c'est, tout est majoré, et on a beaucoup de mal à leur expliquer que... moi, je vois quand même des gosses qui viennent, ils ont 16-17 ans, et ils viennent en couple parce qu'ils ont un problème de sexualité, très bien, lequel? Eh bien, madame, elle ne crie pas. Mais pourquoi elle crierait? Parce que dans les films porno, les filles, elles crient. Donc lui, le gars, il croit qu'il a un problème parce que sa femme, enfin sa copine, crie pas. Et je lui dis, mais t'as envie de crier? Non, non. Mais c'est lui qui veut. Parce que en fait, il a vu des trucs, voilà, où elles sont toutes épilées au dernier carat, parce que ça aussi, c'est la culture du porno. Il n'y a plus de poils. Et les gars, quand ils voient une femme avec des poils, ils n'imaginent même pas. Mais c'est dégueulasse. Parce que la culture du porno, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la sexualité. Il n'y a plus un poil. Et quand on leur explique, mais oui, on les enlève, parce que sinon, on ne voit rien sur la caméra, là, ils se disent, ah oui, ok, c'est peut-être pas la nature, en fait.
Gabrielle ?
Oui, mais parce qu'en fait, il y a ça, et puis ils sont dans un grand écart permanent entre ça, cette culture du porno, et pour autant, donc pas le mode d'emploi de la machine, mais en même temps, un cœur, une envie d'adolescent de découvrir, une sorte de pureté, en fait, qui est là, qui est préservée, puisqu'en fait, ils connaissent pas réellement ce que c'est être amoureux et voilà et on sent cette espèce de tiraillement hyper fort alors J'ai eu plus de dialogues avec des jeunes filles qu'avec des garçons. Donc je sais pas tellement comment ça. Voilà, je me permettrai pas de parler côté des garçons, mais des jeunes filles qui me disent, mais évidemment elles rêvent, elles écrivent des poèmes d'amour, évidemment qu'elles ont vu une œillade, etc. Et en même temps, bon bah de toute façon, va falloir y passer parce que être une femme, c'est faut y passer et que ça puisse être la même chose, que ce soit le garçon dont elles sont amoureuses, mais ça, non, ça, enfin, c'est-à-dire que le lien ne se fait pas, ce sont deux domaines différents. Il y a le cœur qui bat et il y a le corps qui va devenir le corps d'une femme, mais pas nécessairement avec du plaisir et de l'amour.
Je vais peut-être passer la parole au public, et moi j'en resterai avec le clafoutis de la grand-mère, si vous permettez. Voilà.
Oui, mais justement, je voudrais dire quelque chose là sur votre grand-mère, parce que je comprends bien le désir du pseudo. En même temps, des fois, dans la famille, il y a aussi justement une forme de, pas d'hypocrisie, mais justement, la famille trouvera toujours ça très bien, etc. Mais là, vous imaginez, donc vous prenez un pseudo, vous arrivez chez votre grand-mère pour le clafoutis, à l'heure du clafoutis peut-être, et vous apercevez votre livre sous pseudo. Et elle vous dira, oh, c'est ordurier ce bouquin, j'ai détesté. Donc là, le pseudo, c'est dangereux. Vous risqueriez peut-être d'entendre la.
Après, c'est ça qui était bien, c'est que ça m'a libérée, mais une fois que j'ai eu fini quand même, je me suis dit, oh non, ça va, j'assume. Allez, on y va. Et puis, bon, quand même, entre-temps, j'avais divorcé, donc j'avais récupéré mon nom de jeune fille, donc mes petites filles avec la foutis, c'était pas le même nom, donc c'était un petit peu plus simple.
Très bien. Alors, vous n'avez pas le droit au micro dans la salle, vous avez le droit de poser des questions, et si on vous entend pas bien, je reformulerai peut-être la question. Voilà, est-ce que vous souhaitez...
Oui, je souhaite.
Eh bien, monsieur, vous avez une voix de... Oh là là, ça va aller. Allez-y.
Non, mais c'est juste parce que j'en ai pour 2 minutes, il faut que je m'en aille. Je voulais parler à madame Bellefois que votre bouquin, quand je l'ai lu, m'a beaucoup énervé. Non, j'étais... Vous pouvez demander...
Ah bah ça, c'est sûr.
Le temps a passé. Parce que pourquoi? Parce que cette pauvre fille se faisait abuser par un macho de la pire espèce qui termine en macho, quoi. Hein?
Alors, ne spoilez pas la fin.
Oui.
Alors je sais, il y a énormément de gens qui m'en veulent pour la fin, notamment. Je me rappelle à Sablé, il y a un monsieur, il a descendu toute la rue en me disant Madame Bellefois, votre fin. Pardon. Mais votre bouquin, c'est pas possible. Mais c'est un acte d'amour. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution possible. Je vous assure, c'est pas possible avec ces personnages-là. Et puis mon histoire d'amour est tellement belle pour être vraie que ça peut pas durer pour moi. J'ai essayé de faire une fin, voilà. L'amour, c'est beau, mais c'est beau. Mais moi, je l'ai écrit comme quelque chose de beau et de c'est merveilleux. C'est les personnages au départ qui sont pas si simples, mais je vous assure que c'est beau. Moi, je voilà.
Alors, oui. Ah, mais on est là pour longtemps, j'ai l'impression.
Et donc, voilà, au bout du compte, j'ai adhéré à votre livre, finalement.
Merci.
Je trouve que, d'abord, vous avez une très belle écriture, donc on rentre dedans, on va jusqu'au bout. Forcément, pour cette histoire d'écart entre cette jeune un peu demeurée et ce vieux rustre.
Il n'est pas si vieux que ça, hein, il a 40 ans. Hein.
Oui, ouais.
On est jeune à 40 ans.
Parce que s'il est vieux à 40 ans, nous, on est des dinosaures. Hein, voilà.
Dominique, tu as la parole.
Non, c'était pour témoigner que, effectivement, ce que, avec Claude, de toute façon, cet homme, et puis cette violence qui est au début, ce macho, et j'ai entendu aussi de la part d'un autre homme, je ne sais pas si je l'ai vu dans le coin, là, c'est pas possible. C'est pas... Et nous, les filles, on disait, bah, enfin, quoi, etc. Non, moi, ça me faisait un film, je ne sais plus c'est pas quel autre, d'un Irlandais comme ça qui embarque sa femme et puis bon, il y a cette histoire d'amour qui se crée aussi de la même manière. J'ai complètement oublié son public. Et à chaque fois je défendais ce point de vue, mais j'ai dit non, c'est pas, c'est un russe qui il y a une histoire d'amour qui se crée comme ça, et je trouvais que c'était plus sensible chez les hommes, ce rejet de oh non, les hommes n'ont pas été comme ça.
Alors, ça dépend chez les hommes. Souvent, ils me disent, vous dites donc que vous avez pris des risques quand même avec MeToo et compagnie. Mais ça dépend. Il y en a, je me rappelle d'un ami, je le disais, à qui j'avais envoyé le livre, parce que c'est vrai que comme c'est une voix masculine, je voulais quand même pas être trop hors champ. Et il m'a envoyé il a été sympa parce que je lui ai donné le soir et il m'a envoyé un texto à 2h du matin et il m'avait juste mis la phrase, il m'a dit, t'es un mec en fait. Et ça, je me suis dit, bon, c'est bon. Je tiens le truc, quoi.
Alors.
Non, je pense que vraiment ce qui lui donne de l'humanité, c'est l'amour qu'il lui porte, qu'elle lui porte. Ouais, c'est elle. C'est pour ça que le bouquin s'appelle Suiza et pas Thomas. C'est parce que le personnage principal, c'est elle. C'est le cinquième élément, si vous voulez. Tout tourne autour. Et c'est le propos, c'est comment cette pauvre fille qui n'a vraiment rien pour. Et c'est elle qui drive tout le monde. Enfin, c'est l'étoile dans le ciel. C'est, je sais pas, c'est une espèce de. Elle est magnifique. Enfin, pour moi, je l'ai écrit comme ça. Je voulais qu'elle soit vraiment exceptionnelle, magnifique, trop belle. Son intelligence, on s'en fout. C'est sa tendresse, sa féminité et ce côté positif de la femme. C'est pour ça que j'ai été très malheureuse. J'en disais, vous savez, quand vous écrivez, vous imaginez que oui, vous allez être une star tout de suite. Puis vous n'avez pas imaginé les critiques. Et la première critique négative que je l'ai pris en pleine gueule. Hein, je vous assure, j'ai pas dormi de la nuit. Et c'était une nana qui m'attaquait sur quelque chose sur le. Mais comment ça se fait que c'est une sage-femme qui écrit des trucs comme ça? Et ça m'a fait du mal. Parce elle parlait aussi de féminisme et tout machin. Et ça m'a fait super du mal parce que j'avais envie de lui répondre. Mais ma pauvre, mais moi je passe mes journées. Je crois qu'il n'y a pas plus féministe que moi. D'abord, je fais sage-femme, hein, voilà, et je passe ma vie à côté des femmes à leur trouver un toit. En plus, je suis en PMI maintenant, donc c'est trouver un toit, qu'elles ne se fassent pas taper dessus, qu'elles puissent manger à leur faim, que je m'occupe de toutes celles dont personne ne veut, qui n'ont pas de papier, qui sont psychiatriques, etc. Il n'y a pas plus féministe que moi. Et de m'attaquer là-dessus, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très difficile pour moi, sur ma profession, et comment moi, en tant que sage-femme, je pouvais écrire des trucs comme ça. Je me suis dit, elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Parce que c'est avant, enfin pour moi c'est un ode à la femme. Comment une femme, même toute simple, va révolutionner ce gars? Et ça m'a fait pas bien. Enfin j'ai voulu réécrire, je voulais faire un faux compte, aller balancer des trucs et tout. Puis après heureusement j'ai un compagnon qui m'a dit vas-y tu veux faire la croisade ou pas? Parce que là ma pauvre tu vas ramasser quoi. Donc bon. Je me suis dit, oui, il a raison. Il faut que j'accepte de vivre avec ça, quoi. Puis heureusement, c'est les trucs un peu sur Internet. Heureusement, il y a quelqu'un derrière qui fait une super critique. Alors, on fait ça quand même hein, pendant un moment.
Et puis on reprend un verre de rouge.
Voilà.
Et ça va tout de suite mieux.
Ça va tout de suite mieux.
Bon, on va mettre un terme à cet échange. Simplement, je voudrais rajouter quelque chose que j'ai trouvé très, très beau. C'est... Elle traverse, elle s'en va parce qu'elle veut aller voir la mer aussi. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Et la façon dont vous décrivez sa découverte de la mer, c'est tout à fait splendide. Voilà. Merci à vous trois. Merci à vous. Merci.